France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
La forêt, c'est encore un peu du paradis perdu, écrivait Marcel Aimé. La phrase est en exergue du livre d'Alain Baraton, Mon tour de France des bois et forêts. Le jardinier en chef du domaine de Versailles, voix bien connue des auditeurs de France Inter, y partage sa passion pour les Landes, Brocéliande, les Cévennes, les bois de Versailles. Ce peuple des arbres, écrit-il, l'emporte sur nous en quantité et en longévité. À Chaumont-sur-Loire, entre Blois et Tours, dans cette région où fleurissent les châteaux, on mesure aussi le temps qui passe, le Festival international des jardins a 30 ans cette année et à cette occasion, le thème du concours, c'est le jardin idéal. Quelques dizaines de créateurs livrent leurs réponses et comme chaque année, ce que découvrent les visiteurs de Chaumont donne aussi un aperçu des nouvelles tendances que dessinent les jardiniers, ce noble métier dont Alain Baraton aimerait qu'il soit mieux considéré. Alors promenons-nous dans les bois et jardins jusqu'à 13h45, intervenez 01 45 24 7000 ou l'appli France Inter. Quel est votre jardin ou forêt idéal et dialoguez avec nos invités. Bonjour Alain Baraton.
Bonjour.
Nous ne sommes pas samedi, il n'est pas 7h44, mais vous êtes bel et bien avec nous, on en est ravis. Et un grand bonjour également à Chantal Colleux-Dumont.
Bonjour.
Directrice du domaine et du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire, qui fête donc leurs 30 ans cette année. Votre jardin idéal à vous, Madame Colleux-Dumont?
Mon jardin idéal à moi, c'est un jardin ombragé, un jardin auprès d'une fontaine, un jardin où on entend des chants d'oiseaux, un jardin où on peut s'asseoir, où on peut rêver, un jardin luxuriant. C'est difficile parce qu'il aurait toutes les qualités des jardins que j'ai pu voir. En tout cas, c'est un lieu où on s'autorise à être heureux.
Alain Baraton, alors vous êtes passé par Chaumont.
Oui, j'ai été reçu dans ce jardin merveilleux qu'est Chaumont-sur-Loire et j'ai pu voir ô combien chaque année ce festival est une merveille.
Et cette année, vous avez repéré le jardin numéro 9, vous l'avez encore à l'esprit
oui,
ou pas?
Oui, le jardin de l'Éden.
Ouais.
Déjà, j'aime ce nom l'Éden parce que Chantal Dumont, bonjour Chantal, qui parlait justement de ce jardin que l'on aime et dans lequel on peut profiter, eh bien il y a un banc et j'aime l'idée du banc. Le banc est pour moi le premier réseau social. Un jour, quelqu'un a eu l'idée de se dire, tiens, je vais inventer un meuble qui permet à plusieurs fessiers de se poser côte à côte et de converser. Et j'aime cette idée. Et dans ce jardin de l'Éden, que j'ai découvert à Chaumont-sur-Loire il y a quelques jours à peine, eh bien j'ai pu profiter d'un banc et quelqu'un est venu s'asseoir à mes côtés et nous avons parlé de ce jardin. C'est ça le jardin, c'est un moment de convivialité, d'échange et de sérénité.
Quel est votre jardin idéal? Patrice, vous êtes en ligne avec nous, vous nous appelez de Lorraine. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Alors, votre jardin idéal à vous.
Que j'apprécie beaucoup l'état d'esprit. Deux choses, donc le jardin et la forêt. Le jardin, pour moi, il y a deux composantes principales, pelouse, potager, bordure. Pelouse, c'est ce que nous essayons de faire avec mon épouse à la maison, c'est conserver des herbes folles, et parce que faut savoir que un jardin très tondu, c'est quasiment un jardin mort, une pelouse morte. Bordure, nous avons essayé de planter environ 400 arbres pour faire justement une diversité tout autour du jardin.
Vous avez bien dit 400 arbres.
Oui, tout à fait. Et chose que nous avons reproduite avec des écoles, puisque nous avons planté à peu près 1 000 d'arbres autour de notre village, d'Amary-sur-Sault et autour de Bar-le-Duc. Ouais. Et puis, ce qui concerne la forêt, je suis personnellement très attaché au taillis sous-futé, où on rencontre beaucoup de diversité, beaucoup de mammifères et d'oiseaux. Et d'ailleurs, je veux dire à ce sujet que j'ai le cœur fendu, puisque près de chez moi, j'habite dans le sud de la Meuse, on va détruire pour la bêtise des hommes le bois, le jus, là, à cause du projet CIGEO. Voilà. Et je crois que c'est la diversité, il faut la protéger.
Merci Patrice pour votre témoignage. Le Parisien que je suis est très jaloux des 400 arbres. Est-ce que la définition qui vient d'être donnée vous convient à la marathon?
Elle est parfaite car notre ami vient d'ajouter le jardin potager, donc le jardin vivrier. Dans le jardin de l'Éden, il y a des fruitiers, il y a également des légumes importants. Voir un légume qui pousse et qui demain sera dans votre assiette, ce n'est que du bonheur.
Est-ce que les paysagistes qui sont cette année à Chaumont proposent, qu'est-ce qu'ils proposent comme jardin idéal, Chantal Dumont?
Alors, il propose beaucoup de facettes de ce jardin idéal. On a un jardin qui s'appelle le banquet, par exemple, et qui est un lieu où toutes les plantes sont comestibles, un lieu où on se retrouve, les petits et les grands, un lieu transgénérationnel. On a également des jardins qui évoquent l'abbaye de Thélème, par exemple,
dont Rabelais.
La devise était « Fais ce que voudra
».
On a un jardin qui évoque une fresque extraordinaire du temps des Romains qui s'appelle le jardin de Livia. En fait, il y a autant de définitions qu'il y a de jardins, et ces paysagistes qui sont venus du monde entier nous font entrer dans un monde différent à chaque jardin. Mais à chaque fois, c'est une belle réponse. Ça peut être un jardin nourricier, un jardin thérapeutique, un jardin qui est une œuvre d'art. L'idée, c'est que le jardin soit un lieu d'oubli et d'espérance.
Est-ce que, alors pardon, la question est presque contradictoire dans ces termes, est-ce que le jardin idéal aujourd'hui est forcément bio et écolo ? Un jardin semble naturellement écolo et bio, mais vous voyez ce que je veux dire, Alain Baraton ? Est-ce qu'il faut travailler cette question-là ? Vous qui avez supprimé les phytos, je crois, en 99 à Versailles.
Ce ne fut pas toujours le cas. Souvent, les amateurs de jardin bombardaient leur territoire de produits divers et variés, ne se gênaient pas de polluer l'air, la terre ou l'eau pour obtenir quelques retours. Non, aujourd'hui, le jardin se doit effectivement de devenir exemplaire. Versailles, vous venez de le citer, s'est débarrassé des produits dits toxiques en 1999, le 26 décembre, pour être précis. Aujourd'hui, Versailles reçoit des millions de visiteurs qui découvrent peut-être parfois quelques herbes indésirables dans les allées, j'en conviens, mais un air propre et une eau, dans laquelle on pourrait presque nager. C'est important que le jardin aujourd'hui soit un exemple de biodiversité, de respect de la nature. Comment voulez-vous que la planète aille bien si le petit jardin que vous avez vous-même n'est pas entretenu comme il se doit ? Comment voulez-vous que la planète aille bien si les petits oiseaux, les petits mammifères, les insectes qui hier vivaient chez vous sont obligés de partir pour vivre normalement ? Le jardin est donc très important, il faut qu'il soit propre.
Chantal Collet-Dumont, on trouve des jardins avec des fontaines en plastique recyclé à Chaumont et des innovations aussi pour mieux conserver l'eau. Là aussi, il y a un aspect important. Désormais, on ne peut pas présenter un jardin idéal si on ne tient pas compte de cette dimension.
Cette dimension est très importante à Chaumont. Elle est importante dans nos 32 hectares de parc où depuis plus de 15 ans, il n'y a aucun pesticide et ça n'empêche pas, bien au contraire, les plantes de pousser. On désherbe à la binette. Et ces préoccupations, elles sont celles des paysagistes qui sont souvent jeunes. Ils ont entre 25 et 35 ans. Donc, ils sont extrêmement sensibles à ces sujets écologiques. Et donc, du coup, quand on voit du plastique, c'est du plastique recyclé. C'est pour montrer qu'il ne faut rien perdre. Et on a, par exemple, pour l'irrigation, des zoyas géants qui recueillent l'eau et qui la diffusent sans la gaspiller. Donc, il est important que toutes les dimensions esthétiques, écologiques, thérapeutiques, je l'évoquais, soient présentes dans le jardin, et ça n'est pas un problème, en fait.
Le message de Nathalie sur l'application Pour moi, le jardin idéal est le jardin punk. Il faut conserver des zones de végétation spontanée, ne dégager que certaines zones de culture et de passage. Alain Baraton, je voudrais qu'on parle des forêts, des bois et forêts aussi avec vous. Quand on pense jardin, on pense à tous les sens, en tout cas deux principalement, la vue et l'odorat. Dans les forêts, notamment dans les Landes, ce que vous aimez aussi, c'est le bruit.
C'est merveilleux. Alors, le bruit dans une forêt est merveilleux quand il fait jour. Je dois avouer qu'à la nuit tombante, le craquement, on n'est pas très courageux. Mais quand vous êtes dans les Landes, en plein été, vous marchez pieds nus sur les aiguilles de pin, le sable est chaud et on entend craquer ces cônes qui s'ouvrent avec le soleil. Je trouve cela merveilleux. Cela vous rappelle que vous êtes en vacances, cela vous rappelle qu'il fait beau. En un mot, cela vous rappelle qu'il y a de la vie. Et j'aime ce bruit dans la forêt qui, dans les Landes, est un bruit merveilleux. Dans d'autres forêts, il y a des sons que je n'aime pas. Je n'aime pas le son des aboiements de chiens quand il y a les chasses à courre. Par exemple, je le trouve terrible. Mais il y a des bruits merveilleux. Et il est vrai que quand le soir, la nuit tombe sur une forêt et que le silence s'établit, qu'il n'y a plus de gazouillis d'oiseaux et qu'on entend au loin quelques animaux se manifester, ce n'est pas encore angoissant, c'est étrange. Une forêt s'écoute, se regarde et, comme vous l'avez dit, se sent.
Vous avez trouvé la forêt de Brocéliande ?
Alors, je ne suis pas le premier à la chercher. J'ai trouvé le hêtre de Pontus, c'est déjà pas si mal que ça. Ouais. Mais la forêt de Brocéliande...
C'est quoi le hêtre de Pontus, pardon ?
Oh, c'est un hêtre qui a été planté là où il y a eu un combat d'un homme qui n'a pas supporté d'être accusé à tort par le roi. Il a épousé la fille du roi, il a tué le rival. Ce fut un combat terrible. Et là où il y a eu la victoire, il y a longtemps, il y a très très longtemps, un hêtre pousse. Et le hêtre est toujours d'une très grande beauté. Alors disons que pour faire simple, ce hêtre, lui, se situe du côté de Paimpol. Ouais. Mais c'est John Ford qui disait « Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimons la légende. Il ne faut pas trop en savoir sur la forêt de Brocéliande. Y a-t-il des fées? La fée Morgane existe-t-elle ou pas? Moi, je vous pose la question. Ne cherchez pas la réponse.
Chantal Collet-Dumont, je me suis dit à la fois en lisant le livre d'Alain Baraton, en regardant les images de ce qui est présenté à Chaumont, qu'au fond, le jardin, c'était un moment et que dans la forêt, il y avait une notion de temps plus profonde, peut-être quelque chose de l'éternité. Est-ce que vous feriez cette distinction-là entre les deux? Peut-être que je me trompe.
Je pense qu'on peut aussi trouver l'éternité dans le jardin. Les jardins ont plusieurs temporalités. Il y a en effet le temps long des grands parcs, mais on peut jouer avec le temps. Et je me souviens d'une conversation avec Yves Bonnefoy il y a très longtemps et qui me disait qu'un arbre, tout arbre, était porteur en lui de l'éternité. Donc, un arbre ou une forêt, il y a quand même une relation avec le temps qui est extraordinaire quand on est dans la nature.
Vous donnez les chiffres, Alain Baraton. La forêt française semble bien se porter en termes de quantité. Est-ce qu'elle est menacée d'une manière ou d'une autre?
Oui, elle est menacée par quantité de maladies qui affectent durablement, par exemple, les frênes. Elle est menacée chaque été par des incendies de forêt. Elle est menacée par une urbanisation parfois abusive ou le non-respect de certains lieux plantés. Elle est menacée par quantité d'éléments. Donc la forêt continue de grandir. Oui, il y a 16 millions d'hectares de forêt en France, c'est sûr. Il y a 1 milliard 300 millions d'arbres qui plantent, qui constitue la forêt, mais ce n'est pas parce qu'une forêt augmente en surface qu'elle est en bonne santé. Elle est attaquée parfois, elle est menacée, c'est une évidence, donc la forêt doit être préservée, et à une époque où l'on souhaite, je crois que le président de la République souhaite planter plusieurs millions d'arbres pour les générations à venir, il faut se souvenir que la meilleure façon pour lutter contre le réchauffement climatique, pour puiser le carbone, retenir la terre et briser le vent quand il est violent, c'est de planter des forêts en immense quantité. Qu'attendons-nous pour le faire?
Chantal Collet, il y a une question de Martine. J'aimerais plus de jardins en ville, dit-elle. Avez-vous des conseils pour qu'on puisse pas pallier ce manque en milieu urbain? Est-ce que les paysagistes que vous rencontrez à la fois au festival et pour le préparer travaillent sur cette question-là, plus de jardins en ville?
Il y a de magnifiques jardins en ville. Il y a Camille Muller, par exemple, qui est un spécialiste des jardins de ville, qui, dans des endroits très sombres ou même sur des terrasses, arrive à créer des forêts. Il y a à Nantes une jungle intérieure absolument extraordinaire. Et comme le disait Alain Baraton, dès que le jardin est là, dès que les arbres sont là, il y a tout de suite un abaissement de la température. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais dire. On plante, mais il faudrait surtout parfois arrêter de couper des arbres. Je vois parfois des arbres extraordinaires qui disparaissent. On n'a pas l'impression que les arbres sont considérés comme absolument indispensables. Dans certaines villes, ils disparaissent même quand ils ne sont pas dangereux. Et ça, c'est un combat important, je trouve.
Alain Baraton, je voulais dire un mot d'un autre livre que vous sortez cette année à destination des enfants dans la collection « Quand ça va, quand ça va pas », « Le jardin expliqué aux enfants ». Comment transmettre aux enfants ce goût du jardinage? Vous l'avez attrapé comment et comment vous le transmettez?
Moi, tardivement, en découvrant Versailles les vieux arbres, moi j'ai envie de le transmettre pour dire qu'il n'y a pas plus grand bonheur que de mettre les mains dans la terre, de rappeler aux enfants que quand ils mettent une petite graine dans la terre, ils vont donner la vie et qu'il n'y a pas plus grande victoire quelques semaines à peine après avoir semé, de récolter les premiers radis ou les premiers légumes, que c'est du bonheur. Le jardinage est la seule activité à ma connaissance qui est rentable, qui permet à toute la famille ensemble de participer. C'est une activité qui est bonne pour le moral, pour le physique, pour la planète. C'est du bonheur absolu. Et donner envie à des gamins de faire le métier que moi je fais aujourd'hui ne peut que me réjouir. Moi qui avais un petit peu honte en débutant mon métier, parce que quand j'ai débuté en 1976, le jardinier, c'était un peu le cutéreux, c'était limite la bouse. Aujourd'hui, heureusement, c'est devenu un métier porteur d'avenir. Et j'aimerais, avec ce livre destiné aux tout-petits, effectivement, que d'une nouvelle génération, eh bien, me succède dans les jardins. J'en serais très très heureux.
Chantal Collet-Dumont, Chaumont, c'est jusqu'à quand le festival? Les détails pratiques?
Le festival est jusqu'au 6 novembre. Bon. Et ce qui est merveilleux, c'est que le jardin évolue en permanence. Les végétaux ne sont pas les mêmes en juin, en juillet, en septembre. Donc, cela vaut toujours la peine de venir et de revenir.
C'est noté. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Vous serez là samedi, Alain Baraton.
Samedi matin, 7h40, aux côtés d'Éric Delvaux et de Karine Bécard.
C'est bien noté. Mon tour de France des bois et forêts, c'est publié chez Stock. Il est 13h45.